Bonjour à toutes et à tous, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous, nous sommes en direct, nous sommes le 1er mai de la Foire de Paris sur le 2 mai, absolument, le 2 mai, avec notre partenaire Sofinco. Bonjour Bérénice Deville.
Bonjour Sylvain, je vois que vous êtes encore la tête dans les nuages.
Oui, je suis la tête dans le muguet, on peut le dire comme ça. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, on est ravis d'être avec nous. Justement, nous sommes en direct pour Parlons Immo avec El Docteur de la Rénovation Énergétique qui fait sa chronique, je le rappelle, tous les samedis entre 12h et 13h. Comment il va, Laurent Fermas?
Super bien, pour le 2 mai, vous voyez Sylvain, c'est formidable.
Voilà, directeur.
On est bien là, il y a beaucoup de monde à la Foire de Paris.
Sofinco, merci, vous avez, en plus vous l'avez reçu dans un lieu absolument magique, notre super producteur animateur qui est avec nous. Comment il va, le Grégoire Darico?
Très bien Sylvain, tout va bien, on est bien reçu effectivement.
Voilà, donc on a un gros programme avec vous Bérénice, acheter, vendre, négocier l'immobilier, tout le monde en parle hein, c'est un peu la dent creuse, hein. On en parle vraiment tout le temps. Mais comment ça se passe vraiment sur le terrain? L'objectif justement de Parlons Immo, c'est de décrypter l'actualité pour vous les amis. On va en parler en direct avec une agente immobilière qui est l'une certainement des meilleures professionnelles reconnues dans le monde de l'immobilier. On va pas bouder notre plaisir. Bonjour Anne Boucaud-Basso.
Bonjour à tous, c'est ravi d'être ici dans ce superbe lieu, effectivement.
Comment ça va Anne?
Eh ben ça va bien.
Voilà, ne voyez-vous rien venir à l'horizon au niveau immobilier? Merci en tout cas ma chère Anne. On écoutera également nos auditeurs, comme chaque samedi, après avoir récolté leurs questions par SMS, en envoyant IMO, I2MO, 728 avec vous Bérénice. Et on parle de quoi?
Alors on a eu plein de messages et on va répondre à un auditeur qui se pose des questions sur l'installation des fenêtres. On va voir concrètement tous les conseils pour bien installer ces fenêtres.
Absolument. On va faire aussi les infos de la semaine et on parlera un peu viager également.
Exactement. Je vous présenterai deux biens viagers.
Voilà, les biens viagers, on en parlera. Donc, on déconstruit un peu l'idée. Viager, ça peut être extrêmement moderne. Et avec l'ami Grégoire, on va parler également rénovation énergétique.
Eh ben oui, mon cher Sylvain, avec Laurent Permas, on va jouer au vrai du faux de la réno. C'est original. Et bon, on va le tenter. Et puis, dans notre chronique Maison Saine, je vous parlerai d'une notion intéressante, celle du bâticament.
Ouais, pas mal.
Ah, c'est
ça,
pas mal ça.
C'est pas mal, le bâticament. Ouais. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a toujours de belles surprises sur Parlons Immo. Allez, tout de suite, les infos de la semaine à retenir avec vous, Bérénice.
Sud Radio. Parlons Immo.
Alors, quel est le programme de la semaine?
Alors déjà, je vais vous parler des EHPAD qui changent de nom, place aux Maisons France Autonomie. Je vais vous expliquer que ce ne sera pas seulement un changement de nom, mais aussi un nouveau label. Ensuite, je vais vous expliquer où ne jamais brancher une multiprise, Sylvain. Un réflexe de sécurité à avoir absolument, parce que le risque d'incendie est bien réel et il y en a encore chaque année. Et enfin, je vous parlerai des balcons défectueux en France. C'est un phénomène qui inquiète de plus en plus et je vous dirai ce qu'il faut faire quand on a un doute sur son propre balcon.
Eh bien écoutez, sacré programme. On va commencer avec le gouvernement qui veut faire disparaître, tenez-vous bien, le mot EHPAD. Et à la place, on parlera de Maison France Autonomie.
Voilà.
C'est pas une blague. Hein.
Non, c'est pas une blague. C'est comme France Travail, par exemple. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça intervient 4 ans après le scandale Orpea. Hein, je vous rappelle, hein, maltraitance, malversation financière, famille traumatisée. L'exécutif veut tourner la page. 7500 établissements sont concernés. Alors, l'idée, c'est la création d'un label avec une transformation à horizon 2027. Le contenu exact sera fixé en septembre lors d'une conférence nationale de l'autonomie. Une concertation sera lancée avec les personnes âgées elles-mêmes, pour qu'elles puissent donner justement leur avis sur les politiques publiques qui les concernent. La ministre déléguée à l'autonomie et aux personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, veut que ces lieux redeviennent des endroits où on a envie de vivre et de travailler. Alors il faut dire, Sylvain, c'est vrai que depuis le Covid, la défiance s'est installée, et depuis l'affaire Orpea aussi. Le taux d'occupation des EHPAD a chuté de 5 points entre 2019 et 2023. Les familles donc n'attendent pas seulement un nouveau nom, hein, ce sera un peu trop facile. Elles attendent plus de personnel, plus de transparence, plus de contrôle. Et il y a quand même un problème de fond hein, qu'il faut noter, c'est la pénurie de personnel. Aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de vie, ces métiers recrutent massivement et il y a urgence d'ici 2030. Je vous rappelle que le mur démographique va faire exploser le nombre de seniors en perte d'autonomie. Hein, c'est une arrivée massive de seniors hein, dans notre société. Il faudra des bras en établissement comme à domicile. Alors si vous cherchez un sens à votre travail, une carrière utile, un emploi stable, eh bien le secteur du grand âge, c'est peut-être pour vous.
C'est peut-être l'avenir. D'ailleurs, on a le spécialiste du vieillissement avec nous, puisqu'il a plusieurs casquettes, c'est notre ami Laurent Permas. Vous nous parlez maintenant d'un objet qu'on a tous chez nous, mais qui peut devenir dangereux, c'est incroyable, c'est la multiprise.
Oui, qui est une multiprise mal utilisée ou mal placée peut provoquer une surchauffe, voire un départ de feu. Alors trois endroits où il ne faut jamais brancher une multiprise. D'abord, près d'une fenêtre. Il faut savoir qu'une fenêtre mal isolée ou laissée entrouverte, eh bien, il y a de l'eau qui peut s'infiltrer. Donc l'eau et l'électricité, hein, je vous fais pas de dessin, ça fait jamais bon ménage. En été, les rayons du soleil peuvent aussi surchauffer la prise, donc il y a un risque d'incendie. Ensuite, il faut pas la mettre sous un tapis, derrière un rideau, sous une couverture. En fait, il faut pas cacher les câbles, même si parfois c'est plus joli. Ces matières sont inflammables et la multiprise a besoin de respirer pour évacuer la chaleur. La moindre étincelle et le départ de feu, y est quoi. Et enfin, ça paraît vraiment évident, mais on le rappelle jamais assez souvent, jamais près d'une source d'eau. Donc pas dans la salle de bain, pas près de l'évier de la cuisine. L'humidité, juste l'humidité, peut provoquer des courts-circuits et des conséquences peuvent être vraiment dramatiques jusqu'à l'électrocution. Donc la règle, c'est qu'une multiprise, ça se branche dans un endroit sec, aéré, ventilé et idéalement, on la fixe au mur. Et je vous rappelle quand même que 240 000 incendies d'habitation sont déclarés en France chaque année. Un quart sont d'origine électrique et parmi ceux-là, 36% sont liés à des installations fixes aux mobiles, typiquement des multiprises.
Il faut peut-être que j'enlève les miennes parce que je les ai mis dans la salle de bain.
Je vais passer de checker. Ah ben non, mais faut pas faire ça.
Ben oui. Vous voulez nous faire une cote François? Mais comme dans la plupart des salles de bain, on a des multiprises.
Ah ben non, faut faire attention avec ça.
Bon, c'est au mur. Hein.
Oui, oui. Alors, allez au mur, donc ça va.
Ça va. Je viendrai vérifier, c'est bon.
Bon, je vérifie toujours avec Bérénice. Il faut être très scrupuleux. Bérénice, on va finir avec un sujet dont on parle de plus en plus dans les médias. Et ça a été un drame. D'ailleurs, la rue Hamelot les balcons qui seraient défectueux.
Exactement. C'est un sujet qui revient, hélas, assez trop régulièrement en France. Il y a de nombreux balcons qui risquent de s'effondrer chaque année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'inquiète pour le sien? C'est très simple. Si vous voyez une fissure qui s'élargit ou même une fissure, du béton qui s'effrite, quelque chose d'inhabituel, vous prévenez votre syndic. Vraiment, c'est son rôle, c'est à ça qu'il sert, entre autres, hein, évidemment, il a d'autres rôles, mais c'est lui qui va se déplacer, qui va constater les dégâts, qui va mandater une entreprise pour permettre justement de vérifier son balcon, pour remettre le balcon en sécurité. Et le coût des travaux sera ensuite voté en assemblée générale et réparti entre tous les copropriétaires, puisque le balcon, c'est la copropriété. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors sécuriser une dizaine de balcons sur une façade, c'est environ 1300 euros avant de plus gros travaux de rénovation derrière. Donc vraiment, faut pas hésiter, faut y aller parce que des vies peuvent être en danger. Hein.
Merci beaucoup Vérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec vous, Grégoire Daricot et Laurent Permas.
Et bonjour à toutes et à tous. Allez, cette semaine, on change un peu d'angle. Comme on est en direct de la Foire de Paris, on va tester vos idées reçues sur la rénovation énergétique. Je vous propose, avec Laurent Permas, un petit vrai du faux. Prêt, Laurent?
On est prêt. Il y a quelque chose à gagner à la fin. Hein.
Allez, en tout cas, un quiz. Peut-être tester nos idées reçues sur la rénovation énergétique. Laurent, une pompe à chaleur, c'est toujours rentable. Vrai ou faux?
Tic-tac, faux. En fait, c'est rentable si le logement, bien évidemment, est bien isolé, hein, sinon la machine elle surconsomme, le confort est pas au rendez-vous et puis les économies sont très décevantes. Donc la règle, hein, l'audit énergétique de son logement avant de faire quoi que ce soit et puis dans l'ordre, on isole et ensuite on chauffe.
Allez, on peut faire une rénovation efficace avec un petit budget, vrai ou faux?
Tic-tac, vrai. On n'a pas besoin de 30 000 euros ou 15 000 euros en fait. Un exemple, hein, isoler les combles, installer un thermostat, les radiateurs, c'est 250 euros. Ou améliorer l'étanchéité, donc ce sont des travaux à quelques centaines d'euros justement, avec un véritable impact.
Les aides financent tout. Alors ça, on aimerait bien. Vrai?
Faux. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est lié aux conditions de ressources, aux revenus. Hein, ça voudrait dire que la France est malheureusement très pauvre. Donc les aides, elles peuvent couvrir une partie importante, mais il reste toujours un reste à charge. Et attention aux promesses du type la pompe à chaleur à 1 euro ou à 0 euro. Méfiance.
C'est de l'arnaque, là. Hein.
Le gratuit n'existe pas. Voilà. Une maison bien isolée consomme forcément moins. Qu'en pensez-vous, mon cher Laurent?
Alors, c'est vrai, mais pas totalement complet. Elle consomme moins si elle est bien utilisée. Les gestes, en fait. Hein. Si vous chauffez à 23 degrés avec une belle pompe à chaleur, une bonne isolation, ça va consommer beaucoup. La facture, du coup, va être très importante. Et donc, les habitudes, elles comptent beaucoup. On en parle assez peu. L'habitude, c'est l'anticipation de la prévention.
Allez, on continue. Changer les fenêtres suffit à améliorer son diagnostic de performance énergétique, le DPE.
On le saurait, hein, c'est totalement faux. Les fenêtres, c'est important, mais c'est pas le seul geste, c'est pas suffisant. Les grosses pertes, elles viennent en fait du toit, parce que l'air monte, l'air chaud, et puis des murs, on en parle très souvent. Donc changer les fenêtres sans isoler le reste, impact limité comme les pompes à chaleur.
Et oui, la rénovation énergétique, c'est compliqué, ça c'est vrai.
Alors là, ouais, la question est trop facile. Hein. 23 changements en l'espace de 2 ans. Pense que si... Non mais c'est fait exprès, vous voyez, ouais, c'est un jeu. C'est
pour nous
donc il y a des aides, il y a des démarches, il y a des choix techniques. Mais aujourd'hui, en fait, il existe des accompagnateurs. Vous savez, le MAR, comme le café, Mon Accompagnateur Rénove, 600 guichets France Rénove qui sont publics, c'est l'État, partout en France. Et puis des parcours simplifiés. Voilà, le plus dur, bah, c'est en fait se lancer, ne pas avoir peur.
Et puis Laurent, la rénovation, c'est surtout pour l'écologie. C'est vrai ça ?
Alors ça c'est on aime bien le dire dans les dîners en ville mais c'est faux. Les Français en fait c'est la facture, hein. C'est le confort, les économies. Non mais là il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat, on va pas se leurrer. Et puis une valeur immobilière, c'est un investissement en fait de faire des travaux parce qu'on le sait. Hein. Sinon il y a une décote.
Allez Laurent, on retient quoi de ce vrai faux ?
Bah, il n'y a pas de solution miracle. On commence par un audit énergétique. On le redit, mais malheureusement, peu de Français le font. Pas de rénovation magique. Hein, le 1 euro à 0, ça n'existe pas. Puis des solutions concrètes, efficaces, du bon sens paysan sur toute la France pour faire des bons choix. Et puis chaque logement est différent. Il n'y a pas de recette.
Bon sens paysan. Merci Laurent Permas. Et à vous qui êtes sur la foire de Paris ou à l'écoute, posez des questions comparées et méfiez-vous des idées toutes faites. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Merci les amis, des conseils extrêmement importants. On revient dans quelques instants après une petite pause et on répondra aux questions de nos auditeurs. Avec vous Bérénice, on recevra également notre grand invité, agent immobilier, qui va nous donner tous les bons plans et les bons conseils pour bien porter son projet immobilier. T'es avec nous, c'est Anne Boucaud-Basso. À tout de suite.
Sud Radio.
Acte de la foire de Paris, porte de Versailles, avec Sofinco.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente.
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, salut les amis, nous sommes en direct sur Sud Radio, en direct de la Foire de Paris. On est ravis d'être avec vous, nous sommes le 2 mai. Voilà, bonjour à tous et bonjour la France, si vous prenez l'émission en cours. On va parler justement immobilier, c'est ce qu'on fait d'ailleurs chaque semaine, tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de votre logement et surtout on répond à vos questions. Avec vous, Bérénice de Villefleurion, on nous a posé d'ailleurs une question sur les fenêtres, parce que ça concerne tout le monde. À tout de suite.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Et oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine. Bérénice, on a reçu un SMS.
Oui, d'ailleurs, continuez à nous envoyer vos SMS, hein. Vous envoyez vos questions si vous avez des questions sur votre logement. Vous envoyez IMO, I2MO, au 7-20-18, donc IMO, puis votre question. Et là, on a Laurent qui habite dans la Sarthe et qui souhaiterait refaire ses fenêtres, changer en tout cas 4 fenêtres, et il a contacté un entrepreneur, alors qu'on lui a recommandé, soi-disant un bon entrepreneur de la région, qui lui a dit qu'il fallait 5 jours pour changer 4 fenêtres, et il nous demande si c'est le délai en moyenne, voilà, pour changer 4 fenêtres. Alors, on accueille notre expert Grégoire Fichter, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le dirigeant de France Fenêtres. Donc là, France Fenêtres, vous intervenez sur l'Île-de-France, c'est ça ?
Exactement.
Et Logic Innov, là, vous intervenez en Normandie.
Tout à fait.
Alors, en termes de délai, est-ce que 5 jours pour 4 fenêtres, c'est courant ?
En termes de délai, 5 jours pour 4 fenêtres, ça me paraît peu courant. On est en général sur une équipe d'intervention. On va faire environ une pause de 2 fenêtres par jour. Donc on est plutôt sur une durée de 2 jours que sur une durée de 4 jours.
En gros, c'est une demi-journée par fenêtre, c'est ça ?
Exactement.
Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut que les occupants de la maison, parce qu'on a eu plusieurs messages, comment ça se passe justement quand on change ses fenêtres ? Il faut que les occupants s'en aillent, j'imagine ? C'est plus pratique ?
Alors globalement, ça se passe très bien et c'est plutôt nous, rénovateurs, qui allons nous adapter aux besoins du client. Les personnes peuvent rester dans leur habitation, les équipes ont l'habitude de protéger un chantier, de mettre en situation les lieux. On s'adapte aussi bien à des gens qui partent au travail qu'à des gens qui restent sur leur lieu de résidence. Et donc on va faire en sorte de ne pas ouvrir toutes les fenêtres du chantier pour que le chantier reste confortable à habiter.
Parce qu'il y a des bâches à installer, ça fait de la poussière.
Exactement, on va installer des protections au sol, des protections et des bâches pour pouvoir limiter la poussière. On va faire un petit coup de nettoyage une fois l'intervention terminée pour que ce soit le plus confortable et le plus perfectif possible pour le client final.
Est-ce qu'il y a une période qui est plus propice au changement de fenêtre ? J'imagine qu'il faut éviter l'hiver quand il fait très froid, par exemple.
Alors, Pour le bien-être de l'entreprise, je serais un mauvais vendeur de
vous répondre. Vous n'allez pas me dire non, mais pour le bien-être du client.
Mais pour le bien-être du client, ça reste plus confortable en période douce, ouais. Puisque forcément, il y a toujours un petit peu de déperdition.
Mais il y a peut-être plus de demandes, du coup.
Il y a plus de demandes. Alors souvent, les demandes sont tardives. Je profite de l'émission pour le souligner. Les gens se réveillent au mois d'octobre.
Ah, oui.
Est-ce que c'est confortable pour le portefeuille du client aussi?
Ça coûte combien, changer des fenêtres?
Changer des fenêtres, c'est très aléatoire, puisqu'il y a énormément de matériaux. Il peut y avoir différents types de poses.
Mais en moyenne, allez.
En moyenne, on va dire qu'une fenêtre, aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a vécue sur les 5 dernières années, va coûter entre 1200 et 2000 euros posée.
Posée, avec la pose incluse.
Pose incluse, avec la TVA.
Et alors, justement, vous parlez d'inflation. C'est vrai que là, depuis le 28 février, il y a une guerre au Proche-Orient. Il y a une crise énergétique, hein, puisque le détroit d'Ormuz est fermé. Ça fait augmenter le cours du pétrole et du gaz. Est-ce que ça commence à impacter votre marché? Est-ce que ça commence à impacter le prix des fenêtres, justement?
Alors effectivement, on a eu des réactions plutôt timides, parce que je pense qu'on est dans un milieu économique dans le bâtiment où une nouvelle hausse faisait peur à beaucoup de gens. Malheureusement, vu que la situation dure, on commence à voir apparaître les premières hausses chez nos industriels dans nos groupements d'usines, qui sont de l'ordre de 3,5 à 5% sur les horizons du 15 avril au début juin.
Donc on espère que le conflit ne va pas durer, parce que ça risquerait d'augmenter, de continuer à augmenter en tout cas.
C'est effectivement à souhaiter pour personne, car je pense qu'on a vécu suffisamment d'inflation dans les dernières années.
Oui, là, c'est vrai qu'il y en a marre. Merci beaucoup. Donc un dernier conseil, c'est pour l'auditeur, Laurent, c'est que c'est trop long en fait, 5 jours pour 4 fenêtres. En gros, ça sera plutôt 2 jours.
Ça me paraît relativement long et ce sera gage d'un projet réussi et de qualité pour passer autant de temps.
Et anticiper vos demandes.
Merci beaucoup. Grégoire Fichter pour nous avoir éclairé sur le changement de fenêtre, donc France Rénov et Logique Innov.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Merci Bérénice, effectivement, faut faire très attention au prix des fenêtres. D'ailleurs, je voyais avec vous, Anne Boucobasso, bonjour.
Bonjour.
Que vous étiez d'accord, hein, en moyenne 1200, 1300 euros la fenêtre.
Spontanément, c'est ce que j'aurais répondu, entre 1000 et 2000 euros. Donc finalement, je peux me reconvertir.
Alors, Anne Boucobasso, vous avez créé votre entreprise, vous êtes agent immobilier, vous avez deux agences, vous êtes...
Trois.
Ça fait trois agences. Oui. Trois, décidément, entre le Plessis et les trois agences. Alors, c'est le Plessis-Robinson.
Plessis-Robinson.
J'y suis arrivé cette fois-ci, c'est génial.
Très jolie commune, vraiment.
Voilà, depuis combien de temps vous êtes installée?
Je suis installée depuis 2019 et moi je suis professionnelle depuis 2006. Donc ça fait 20 ans que j'exerce ce beau métier.
Alors justement, vous êtes passionnée par ce métier, on vous connaît bien, vous venez souvent nous voir. Dites-nous franchement, est-ce que les Français aujourd'hui ont toujours confiance dans les agents immobiliers,
Alors oui, vraiment. Mon cher Sylvain, je dirais que les Français ont toujours confiance et on trouve que depuis la pandémie, il y a vraiment eu encore, on a récupéré encore plus de parts de marché. Les professionnels, donc les clients confient de plus en plus leurs biens à un professionnel et s'aventurent moins eux en solo par rapport à ça. On a des périodes qui sont plus ou moins marquées par la reprise du particulier, mais là globalement, on trouve que depuis 2022, où le marché s'est vraiment stabilisé. Et donc on retrouve une activité un peu plus cohérente. Là, les professionnels ont dit à peu près entre 70 et 80% en fonction des régions de France.
C'est vrai. Alors c'est vrai que les particuliers passent de plus en plus par les professionnels, oui. Effectivement. Fut une époque, les particuliers étaient plus majoritaires dans les transactions.
Tout
et maintenant,
à fait. Et maintenant, aujourd'hui, c'est à peu près 70-80%. Hein.
Absolument. Alors selon vous, c'est quoi la plus grande idée reçue, pour déconstruire un peu l'idée dans la perception des Français, l'idée reçue qu'on a de l'agent immobilier? Parce que c'est le mec qui vient avec les Ray-Ban,
le cheveu gominé, grosse voiture. Alors, ça en est un, mais je dirais que c'est un cliché. Ouais. Mais dans les idées reçues, il y a l'ouvreur de porte, parce que c'est vrai que souvent on dit vous allez prendre une com juste pour ouvrir une porte. Finalement, il y a plein de compétences dans ce métier. Et je dirais que la plus grande idée reçue, c'est celle-là. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui me disent, c'est vrai, Anne, au début, je me disais que ça allait être facile. Et quand je vous vois faire, je me rends compte vraiment de la plus-value que j'ai à vous solliciter et de tout ce qu'il y a à faire derrière et organiser.
Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas quand même de tous les agents immobiliers, parce qu'il y a quand même... on peut se poser la question. Souvent, d'ailleurs, lorsqu'on interroge le public, ils ont l'impression que ce n'est pas vraiment un métier, alors que c'est un métier. Oui. Alors, justement, je vais emboîter concrètement. Ça apporte quoi un agent immobilier, au-delà du fait que, effectivement, vous faites les visites, Parce que vous avez raison de le dire. Souvent, dans la perception, on a l'impression que juste pour ouvrir une porte, vous prenez entre 5 et 6, parfois plus, du prix de la vente. Qu'est-ce que vous apportez très concrètement comme service?
Alors, qu'est-ce qu'on apporte concrètement? Je dirais que tout d'abord, bon, il y a toute la partie estimation, parce que c'est quand même le préambule, on va en parler après, mais toute la partie où il faut présenter le bien à son juste prix. Il y a toute la présentation du bien, donc mise en valeur du bien. Et croyez-moi que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, où il faut vraiment mettre son
focus. Quand on y va, mise en valeur, juste donnez-nous un petit peu quelques images, quelques idées.
Tout ce qui va être, bien sûr, les photos, mais au travers des photos, il y a plusieurs outils. La vidéo, parce qu'aujourd'hui la vidéo immersive c'est très important.
Et donc, ça marche mieux, ça marche bien quand on a une vidéo.
Oui, ça marche très bien les vidéos. Nous on les a mises en place des vidéos immersives depuis la période de la fin du Covid et sincèrement ça marche très bien. Les clients, oui. Parce que les gens se projettent tout de suite, spontanément. Ils se rendent compte des volumes et ils vont pouvoir se projeter beaucoup plus facilement. Donc, on a toute cette partie de mise en valeur. Et après, la partie mise en valeur, on a la sélection aussi, nous, parce qu'on va avoir des candidats acheteurs qu'on va avoir, nous, en portefeuille. Donc, nous, on va faire toute cette première recherche de pouvoir aller chercher des visiteurs, des acheteurs, avant de le mettre sur les plateformes de diffusion. Après, bien sûr, il y a toute la partie visite. Mais c'est pareil, là, une visite ne s'improvise pas. Donc, il faut sélectionner le candidat. Ça ne sert à rien de faire une visite.
Mais la vidéo, pardonnez-moi, mais la vidéo, est-ce que c'est une vraie vidéo? C'est-à-dire que, enfin, quand je dis vraie vidéo, il n'y a pas une espèce de choc entre la réalité et ce qu'on voit à l'image?
Non, l'intérêt, c'est que ce soit très réaliste. Mais nous, on aime bien faire vraiment des vidéos séquentielles pour qu'encore une fois, quand le client appuie sur le bouton, il puisse se projeter comme s'il faisait la visite lui-même. Et c'est ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour une vente ou qui ne bloque pas? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le petit détail qui fait la différence?
Le petit détail, moi je dirais que c'est que nous, en tant que professionnels, l'intérêt qu'on va avoir, c'est est-ce qu'il faut réajuster le prix? Est-ce qu'au contraire, il faut revoir la mise en avant du bien? Est-ce qu'il y a différents paramètres qui font que on est bloqué ou qu'on a un acheteur qui a du mal à se positionner? Donc nous, on va avoir ce rôle d'intermédiaire pour justement faciliter la transaction et permettre à vendeurs et acheteurs de trouver un point de rencontre sur le prix.
Finalement, c'est un rôle clé puisque vous êtes quasiment le tiers de confiance. Écoutez, ne bougez pas, restez avec nous, Anne. Vous voulez bien, on va revenir tout de suite pour vous donner des conseils très concrets pour réussir votre projet immobilier. En plus, on est à la Foire de Paris, vous pouvez même vous équiper complètement. Vous êtes dans Parlons Immo et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio, bien sûr.
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, si vous prenez l'émission en cours, il est midi et demi, on est en direct. Nous sommes le 2 mai de la Foire de Paris avec notre partenaire Sofinco pour justement parler immobilier, parler logement, parler bons plans, notamment les bons conseils avec un agent immobilier qui est sur le plateau. C'est une femme.
Anne Boucaud, c'est agent immobilière depuis 20 ans et on est ravis d'être avec vous. Ça va aller, Sylvain?
Je vais y arriver en buvant un peu d'eau, Anne Boucaud Basso, bien sûr. Et ensuite, on s'interrogera avec vous, Grégoire, sur notre maison saine.
Ah, ça tombe bien, Sylvain, on va parler de la notion de bâtiment et comment l'air influe sur notre santé.
Vous ne croyez pas si bien dire. En fait, c'était la démonstration par l'exemple. On est de retour avec vous, Anne Boucaud Basso. Vous êtes agent immobilier non loin d'ici, en région parisienne. Vous êtes installé au Plessis-Robinson. Alors, si je veux vendre aujourd'hui un bien, quel est le premier conseil que vous pourriez me donner?
Le nerf de la guerre, mon cher Sylvain, c'est le prix.
Toujours.
Donc, le premier conseil est vraiment celui-là, se positionner au bon prix, écouter les recommandations du professionnel et vraiment se positionner au bon prix. Ou si on souhaite éventuellement essayer un petit peu plus haut, se dire très bien, on essaye sur un court laps de temps, mais ensuite on fait le point. Aujourd'hui, on a toutes les statistiques qui nous permettent de voir le nombre de vues, le nombre de clics, d'avoir les retours aussi de nos clients qui visitent. Donc, ajuster le prix très rapidement. Ça, bien c'est sûr. Alors, le secret.
Alors, le prix, mais pas n'importe où, bien évidemment. Il y a aussi une sélection. On n'achète pas uniquement par rapport au prix, on est d'accord.
On
achète également une situation, on achète une proximité. Alors, ça compte vraiment, ça?
Bien sûr. Comme on dit, l'emplacement, c'est le critère numéro un.
Alors, est-ce que vous conseillez aux acheteurs qui nous écoutent qu'il faut négocier systématiquement?
Alors, je dirais que on est quand même sur une période où les prix sont plus négociés que la période pandémie, par exemple. Mais globalement, il faut, c'est pareil, être à l'écoute de son marché. Donc, je dirais oui et non. C'est-à-dire que pour certains biens, on reste encore sur des biens vraiment phares, des pépites, entre guillemets, des biens très bien placés, où là, concrètement, il faut souvent se positionner au prix quand c'est cohérent. Maintenant, souvent, quand même, la tendance est à la négociation. Donc, petite négociation qui peut s'opérer. Mais c'est pareil, tout dépend du bien et du
c'est c'est combien? C'est 15-20%? Il y a une légende urbaine qui parle de à peu près 10-15%.
Non, mais oui.
15-20%, ça me paraît beaucoup, Grégoire.
Ouais, ça paraît beaucoup.
Je dirais que d'une manière générale, ou alors c'est un vendeur qui a vraiment positionné son prix à un prix qui n'est pas cohérent.
Non, mais...
non, je dirais que la tendance est plutôt 2, 3, 4, ouais. jusqu'à 5% vraiment ouais. maximum.
Et là, c'est en fonction de la demande en fait. Moins il y a de demande. Et là, il y en a un petit peu moins avec les taux qui remontent.
Oui, mais là, on trouve qu'il y a un petit regain. Il y a eu un petit flop là avec justement la guerre.
Ouais.
Là, on trouve que depuis une grosse semaine, 10 jours, ça y est, il y a un regain à nouveau des acheteurs qui étaient déjà revenus et de nouveau présents depuis nous.
Et qui étaient d'ailleurs sur le parcours, ce que vous appelez vous le parcours résidentiel et les porteurs de projets. Beaucoup plus à l'approche de l'été.
Oui, c'est vrai que la période du printemps, c'est une période qui est dynamique. Donc, à partir de mars, les projets reviennent.
Mais attention, parce qu'à l'année prochaine, il y a la présidentielle.
Justement.
Ça, alors, c'est une période d'attentisme.
En général, grosse période d'attentisme. Donc, souvent, à partir du début de l'année 2027, vu que les présidentielles, ça va être au printemps. Souvent, c'est une période.
Alors, lors d'une visite, quels sont les signaux qui doivent alerter?
Alors,
quand on visite et qu'on est un futur acquéreur.
Alors, comme je dis toujours, il faut lever les yeux sur les plafonds, regarder les murs, regarder. Bah, parce qu'on peut voir une fuite d'eau, on peut voir une trace d'humidité.
Les balcons.
Il y a ces éléments, les fameux balcons dont parlait Bérénice. Donc, je dirais lever les yeux, surtout poser des questions. Quand on a un bien où on a des travaux récents, par exemple, qui ont été faits, c'est pertinent d'aller demander les factures, si c'est des travaux où il y a une garantie décennale. Enfin, tous ces éléments-là sont importants à
l'odeur demander. Aussi, rappelez-vous, l'histoire des rats.
Alors, il y avait l'odeur, mais il y a aussi le fait que... Est-ce que vous conseillez que le vendeur soit présent lors des visites?
Non, surtout pas.
Surtout pas, d'accord.
Surtout pas, Sylvain. Nous, on dit...
Donc, l'agent fait son boulot.
C'est un rapport de confiance, exactement. Le vendeur sort, pour un peu que les clients viennent en famille ou autre. Si c'est pour être 10 ou 15 dans le logement, ça n'a pas d'intérêt. Ouais.
Alors,
donc, il faut laisser le professionnel de confiance travailler.
Ici, on parle de rénovation énergétique. Effectivement, c'est un gros sujet. Mmh. Est-ce que la rénovation énergétique, donc à travers le DPE qui est maintenant devenu opposable, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, est-ce que c'est devenu vraiment le critère déterminant, la shortlist dans le choix ou pas?
Oui, je dirais, alors le critère déterminant, non, mais aujourd'hui, dans les portails de recherche, on a la possibilité de filtrer, donc ça montre quand même que c'est important. J'ai un exemple concret à donner sur une maison qu'on avait en lettre F, on a essayé une commercialisation sur un court laps de temps, un mois et demi de mémoire, on a fait faire les travaux aux propriétaires. Lettre D, et là on a vendu le bien, c'est un cas concret, on a vendu le bien dans la semaine.
Dans la semaine.
Dans la semaine, le client qui a acheté cette maison nous a dit je ne l'avais pas vu dans les portails de recherche parce que je filtrais.
D'accord.
Donc lui, il allait jusqu'à la lettre E et la maison est ressortie et il l'a acheté quasiment sans négociation. Et donc, on a pu faire la transaction comme ça.
Donc finalement, ça a une incidence, mais pas toujours et pas systématiquement. Quand même. Alors, on parle beaucoup d'émotion, le côté émotionnel, vous savez, le coup de cœur, le fameux coup de cœur dans l'immobilier. Est-ce qu'on achète encore comme ça? Est-ce que ça vous arrive de voir des gens en disant « Waouh, c'est la vente va durer 10 minutes, quoi ».
Alors, globalement, oui, il y a des clients qui vont encore acheter au coup de cœur. Mais après, on a aussi des personnes qui sont très rationnelles, qui viennent avec leur to-do list et qui ne sont pas forcément... Donc tout dépend, je dirais, de son cahier des charges. Mais on vend encore, heureusement, au coup de cœur. C'est quand même sympa.
Alors, toute dernière question, prix, emplacement, coup de cœur, à l'heure où le pouvoir d'achat compte, c'est quoi le...
Moi je dirais emplacement, Sylvain.
Emplacement, oui, bien sûr.
Emplacement et bien sûr le prix, mais l'emplacement c'est le critère numéro 1.
C'est très clair. Merci Anne Boccobasso.
Merci,
je Sylvain. Rappelle que vous êtes agent immobilier au Plessis Robinson, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il est temps, mes amis, de parler de la qualité de l'air dans votre logement avec nos amis de Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Et une fois n'est pas coutume, cette chronique est animée intégralement par notre ami Grégoire.
Et oui, et comme nous sommes en direct aujourd'hui de la Foire de Paris, un lieu où l'on parle beaucoup d'habitat, de rénovation et puis de bien-être chez soi. On a pu l'entendre sur l'ensemble des émissions sur Sud Radio depuis hier. Justement, moi je voulais qu'on se pose aujourd'hui tous une question simple. Et si votre logement était votre premier allié santé? Ah oui, parce qu'on parle souvent de sport, d'alimentation, de sommeil, mais on oublie un élément essentiel, c'est l'endroit où l'on vit. Alors qu'on passe environ 80 à 90% de notre temps dans des espaces clos, ça c'est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui le dit. Alors aujourd'hui, on va parler d'une notion intéressante, celle du bâtiment. Alors le baticament, c'est un mot un peu nouveau, un mot que vous ne retrouverez pas dans le Robert ou le Larousse, ou même le quid pour les plus anciens d'entre nous. Non, c'est une idée très simple qui montre bien le lien direct entre le bâtiment et le médicament. Autrement dit, notre logement, il peut soit améliorer notre santé, soit la dégrader. Alors, on va prendre un exemple concret. Vous vous réveillez fatigué, vous avez mal à la tête, vous avez une sensation d'air lourd. Et en fait, c'est peut-être que c'est pas vous le problème, mais plutôt votre environnement. L'Organisation Mondiale de la Santé, elle le dit, un air intérieur, il peut être jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Un air trop humide, mal renouvelé, chargé en polluants invisibles, il peut provoquer de la fatigue, des troubles du sommeil, des irritations, comme vous, Sylvain, tout à l'heure, ou des difficultés de concentration. Et ça, on le voit pas forcément.
Mais vous avez raison, parce qu'en fait, les acariens, de la poussière en suspension dans l'air, je peux vous dire que moi qui suis fragile, justement des bronches, c'est tout à fait vrai ce que vous dites.
Exactement. Et alors il y a un autre exemple très simple, mon cher Sylvain, c'est l'humidité. Alors, un logement humide.
C'est le fléau, ça.
C'est pas juste inconfortable, en fait, c'est un environnement, l'humidité, qui favorise les moisissures, les acariens, vous en avez parlé, et puis une qualité d'air dégradée, résultat plus d'allergies, plus de problèmes respiratoires, et puis un bien-être qui diminue. Ce ne sont pas des idées jetées en l'air, attention, là aussi l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur alerte, environ 20% des logements en France présentent des signes d'humidité. Et puis on le rappelle, les amis, la pollution de l'air, dont l'air intérieur, ce sont plus de 20 000 décès prématurés par an.
Vous le saviez, ça?
Oui, j'avais entendu, et je pense que c'est aussi intéressant de faire installer des ventilations mécaniques dans effectivement les pièces d'eau, parce que moi je vois parfois des logements où il n'y en a pas. Et donc je recommande aux propriétaires, notamment dans les pièces d'eau, mais c'est vrai que c'est
la différence
sur l'humidité.
Sachant donc que ces chiffres en plus sont plus importants que les chiffres de la sécurité. Qui font plus de 3000 morts par an. Alors rassurez-vous, un logement sain peut vraiment faire la différence. Un air renouvelé, une bonne ventilation, vous en avez parlé Anne, un taux d'humidité équilibré, ça améliore la qualité du sommeil, la récupération, la concentration et même l'humeur. Et ça, au fond, l'idée du baticament, c'est votre maison peut devenir un facteur de santé au quotidien. Pas besoin de tout révolutionner, parfois des petits gestes suffisent. Alors il faut aérer régulièrement. Et surtout, ça c'est nos amis de Maison Saine qui l'ont dit, il faut créer des courants d'air. Donc il faut bien tout ouvrir, pas juste une fenêtre, tout ouvrir. Et même si, comme moi, ça vous emmerde un peu d'avoir les portes qui claquent, il suffit de les bloquer. C'est tout simple, moi je prends les voitures de mes enfants pour bloquer les portes et ça marche. Il faut surveiller l'humidité, éviter les sources de pollution intérieure et surtout soyez attentif à votre ressenti parce que c'est votre corps qui vous envoie des signaux. Souvent votre logement y est pour quelque chose. Alors aujourd'hui, depuis la Foire de Paris, retenez ceci: prendre soin de son logement, c'est aussi prendre soin de sa santé. Et puis si vous vous posez des questions, n'oubliez pas, rendez-vous sur maison-saine.fr. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Merci Grégoire. Oui, prendre soin de soi, mais prendre soin de sa maison, l'un est bien lié à l'autre. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler de viager et surtout on se posera la grande question de la semaine, notamment sur les bâtiments défectueux, notamment les balcons qui peuvent être de véritables dangers. On se retrouve tout de suite après.
Question de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour la France. On est ravis d'être avec vous. Nous sommes en direct de la Foire de Paris avec nos partenaires Sofinco. Nous sommes le 2 mai. Si vous prenez l'émission en cours, il est 12h43. On est ravis d'être avec vous. Et on va parler justement d'un sujet qu'on, parfois, on méprise ou qu'on connaît mal, notamment. C'est la question du viager. On va essayer de déconstruire cette idée. C'est notre rubrique viager et ce sera avec Bérénice de Villefloriot.
Parlons viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Bérénice, on va tout savoir sur le viager.
Et oui, je vous propose deux opportunités en viager. Alors, c'est sélectionné par l'Office du viager, qui est dirigé par Marine Livotti. Deux biens très différents, avec un point commun, des opportunités patrimoniales intéressantes, avec une décote immédiate à l'achat. Alors, premier bien, on prend la direction de la Ville Rose, terre de rugby. Qui va trouver qui c'est ? Ce que c'est ?
Toulouse.
Et bravo Laurent, vous êtes le seul qui suit. Évidemment, sur Sud Radio. On commence donc dans le sud-ouest, une ville très dynamique, portée par son bassin d'emploi, le stade toulousain, sa qualité de vie et son attractivité constante. Ici, nous sommes sur un viager occupé avec rente, occupé par une dame seule de 74 ans. Alors le bien, c'est un appartement, bien situé dans un environnement recherché entre les minimes et les chalets. Le principe est simple, l'acquéreur investit aujourd'hui, mais le vendeur continue à vivre dans le logement. En contrepartie, l'acquéreur bénéficie d'une décote importante sur le prix du bien. C'est toute la logique donc du viager occupé. C'est le viager le plus répandu en France. Concrètement, l'acheteur doit verser un bouquet, donc c'est une somme au départ. Là, c'est de 64 000 euros pour un appartement qui vaut en vente classique 290 000 euros. Et puis, l'acheteur versera une rente mensuelle de 550 euros et un prix d'achat global bien inférieur à la valeur du marché libre puisqu'il bénéficie d'une décote de plus de 150 452 euros. C'est donc un placement particulièrement intéressant pour un investisseur qui cherche à se constituer un patrimoine sur le long terme sans gestion locative. Et comme souvent à Toulouse, on est sur un secteur porteur avec un potentiel de valorisation réelle dans le temps. Deuxième bien, là on change, on va à Saint-Genis-les-Villages. Changement d'ambiance, direction donc la Savoie qui est très agréable aussi. Un secteur très apprécié pour son cadre de vie. Je sais que vous adorez la Savoie, Sylvain, en tant que Lyonnais. Entre nature, montagne et proximité justement des grands axes vers Lyon ou Chambéry. Ici, on est également sur un viager occupé avec rente, mais cette fois-ci sur une maison individuelle occupée par un couple de 74 et 75 ans. On parle d'un bien avec deux beaux volumes, un extérieur très soigné, un environnement calme. La valeur vénale est évaluée à 320 000 euros. L'acquisition se fait par un bouquet, donc une somme au moment de l'achat. Là, c'est 65 000 euros et une rente mensuelle de 465 euros. La décote d'occupation est ainsi de plus de 58%, tant compte d'une espérance de vie d'environ 19-20 ans. Typiquement, alors le type de bien recherché aujourd'hui pour une stratégie patrimoniale ou une future résidence, et comme pour tout viager occupé, eh bien, l'acheteur ne peut pas occuper le bien immédiatement, mais en contrepartie, là, il bénéficie d'une belle décote liée à l'occupation du vendeur. Alors, ce qu'il faut retenir, ces deux exemples, eh bien, ça illustre parfaitement l'intérêt du viager. Investir dans de la pierre avec une décote à l'achat, se constituer un patrimoine progressivement, sans les contraintes de gestion locative, et puis j'ajouterais même sans faire de prêt à la banque parfois. C'est vrai que si on a un petit peu d'argent de côté, eh bien là par exemple 65 000 euros, et surtout accéder à des biens situés dans des zones recherchées, que ce soit dans la ville rose ou dans un cadre privilégié comme la Savoie. Donc si cette opportunité vous intéresse, direction le site de l'Office du Viager.
Merci beaucoup Bérénice.
C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.
Merci les amis, voilà, il est 12h47, on est toujours en direct de la Foire de Paris, on s'achemine vers la fin de notre émission. On est ravis d'être avec vous. Je rappelle que Parlons Immo, tous les samedis de 12h à 13h, vous posez nos questions, Bérénice, au
7-20-18 avec IMO devant. Donc avant d'envoyer votre question, vous mettez juste IMO, I2MO, devant votre question dans le SMS. Vous envoyez et moi je lis tout et on y répond avec des experts chaque semaine.
Absolument. Alors c'est l'heure de la grande question, puisque vous savez, chaque semaine les amis, on se pose une grande question qui est une question d'actualité ou une question de fond. Là on va parler d'un sujet qui n'est pas drôle du tout, puisqu'il y a eu un drame absolu. Vous en avez entendu parler, rue Amelot, avec un balcon qui s'est effondré. On a d'ailleurs eu le syndic de copropriété qui est venu sur le plateau, parce que c'est Gilles Frémont qui était syndic.
Attention, c'était pas le balcon, je crois, c'était une pièce qui s'était effondrée. Oui, non, c'est différent. Revanche, les balcons, il y en a très souvent. Il y avait un drame en 2016, qui n'était pas du tout dans Paris, mais c'est vrai qu'il y en a régulièrement des balcons qui s'effondrent. Alors souvent, heureusement, il n'y a personne dessus, heureusement. Mais moi, j'en ai vu un il y a deux mois dans Paris. Je me baladais, il y avait les pompiers et un balcon s'était effondré. Donc ça arrive régulièrement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Il faut quand même regarder l'état de son balcon, parce que ça se voit quand même, quand on voit des fissures,
des petits bouts s'effriter, ou sur les nez de balcon parfois on voit que les pièces
c'est quoi les points de repère justement quand vous êtes alors en maison individuelle comme en bâtiment collectif?
En maison individuelle je ne saurais pas répondre sur les maisons, mais en tout cas sur les appartements, sur les balcons, on voit que soit on voit le fer. Et là, c'est très mauvais signe. Soit on voit que sur les nez de balcon, donc les bordures, ça commence un petit peu à s'effriter. Et là, effectivement, c'est
quand il y a des fissures, juste une ou deux fissures, quand il y a par exemple de l'herbe qui pousse dedans.
De l'herbe.
J'avais une question par SMS qui disait ça.
De l'herbe.
De l'herbe sur une fissure.
En fait, ouais, il y a une fissure et il y a un peu de verdure qui sort de la fissure.
Ça, je ne saurais pas répondre.
C'est pas forcément bon signe.
Question, qui est responsable? Est-ce que c'est lié à l'entretien de la partie privative, je suppose?
En fait, un balcon, ça reste une partie commune. C'est une jouissance privative, mais c'est une partie commune. Donc, c'est aussi la responsabilité de la copropriété. Logiquement, quand il y a des sujets sensibles comme ça, il faut que les copropriétaires aient le réflexe d'en parler d'envoyer des photos au syndic pour qu'ensuite, ils puissent peut-être faire un audit général des balcons pour justement éviter des soucis aussi structurelle.
Il faut c'est la responsabilité de la copropriété, vous le rappelez.
Oui, mais des copropriétaires aussi.
Et des copropriétaires, bien évidemment. Ouais. Et donc, il faut avoir... Maintenant, avec les événements, malheureusement, effectivement, les syndics se sont de plus en plus attentifs à des surveillances ou même des audits aussi, par exemple, qui permettent de repérer les pathologies des bâtiments.
C'est pas de la faute que du syndic. Hein. Le premier à devoir alerter, c'est le copropriétaire.
Bien sûr,
dès qu'il voit qu'il y a un souci, alors évidemment, on ne le voit pas forcément tout le temps, mais il faut quand même vérifier. C'est le rôle du copropriétaire qui doit alerter le syndic.
Bien sûr. Autre sujet d'actualité, on l'a vu, un relèvement progressif des taux d'intérêt qui sont inquiétants. Et surtout, avec Bérénice, on a trouvé un point, c'est qu'on a constaté que des banques Bérénice ont commencé à refuser certains dossiers.
Bah ça y est, c'est vrai que les courtiers commencent à alerter. Certains dossiers sont rejetés à cause du taux d'usure. Alors là, le taux d'usure, bon, c'est un petit peu technique, mais notre cher Laurent, notre banquier, va pouvoir nous expliquer ce que c'est.
Il sait tout faire, Laurent.
Le taux d'usure, en fait, c'est le taux à partir duquel les banques n'ont plus le droit de prêter. C'est ça.
Absolument. C'est-à-dire que c'est le taux pour lequel les banques ne peuvent pas poser. En fait, c'est le taux maximum. Donc, alors, pour faire juste un petit peu d'histoire, hein, vous avez le TAEG, déjà.
Hein, c'est taux annuel.
Le taux annuel effectif global. D'accord. Et vous avez ensuite un taux d'endettement qui est de 35%. Hein, donc, c'est là où il y a un sujet. C'est notamment les normes
HCSF, au Conseil de stabilité financière.
Voilà. Et là, qui n'est pas totalement indépendant, puisque ceux qui fixent en fait le taux d'usure, c'est la Banque de France, c'est le gouverneur.
D'accord. Ouais,
c'est pas Bercy.
Donc c'est lui qui dit, à partir de ce taux-là, les banques, vous n'avez plus le droit d'augmenter, de prêter de l'argent.
Exactement. Et donc le TAEG.
L'absus révélateur.
Et donc, pour bien comprendre le TAEG, en fait, il comprend quoi? Le taux d'intérêt nominal, d'accord. Vous avez ensuite l'assurance emprunteur.
En gros, ça comprend tout.
Voilà, exactement.
C'est le bouquet.
Voilà, l'assurance emprunteur, voilà, c'est tout à fait, les frais de dossier et éventuellement les frais de garantie comme hypothèque. Donc le TAEG, en fait, aujourd'hui, c'est un tout. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes senior, lorsque vous êtes investisseur, c'est-à-dire que vous avez pris un Pinel, etc., vous vous retrouvez en fait.
Ça existe plus
avec...
le Pinel, hein.
Oui, je sais, mais anciennement. Donc en fait, lorsque vous voulez emprunter, vous vous retrouvez en fait avec ces charges et vous avez justement les 35%. Ouais. Ces 35%, les banques peuvent piloter, mais c'est très compliqué d'être légèrement au-dessus. Donc, vous avez deux effets, en fait, qui viennent un peu bloquer la situation aujourd'hui pour ces tranches d'âge. C'est à la fois le taux d'usure et en même temps les 35% d'endettement. Alors qu'en fait, en France, on a quand même une garantie, c'est que nous n'avons pas de taux variable, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens.
Je crois qu'on est un des seuls pays à le faire.
Exactement. Donc
Europe,
le taux fixe, c'est une garantie. Et le deuxième point...
Avantage et inconvénient, quoi.
Oui, mais là, en l'occurrence...
Non, pour le coup, c'est bien.
Et juste ce qui pose problème, c'est le calcul du taux d'usure. Parce que pourquoi on ne le relève pas, ce taux d'usure? Pourquoi
alors,
il bloque?
On l'a relevé juste après la période Covid.
Si on se calcule tous les trois mois.
Et en fait, on a demandé le gouverneur de la Banque de France à acter... pendant une période de 2 ans, en fait, qu'il y avait un taux mensuel qui était révisé.
D'accord.
On a eu un choc immobilier qui gelait, en fait, l'achat des Français. Il faudrait repasser avec cette mesure qui permette, justement, eh bien, d'augmenter le taux d'usure et que cette tranche de Français qui souhaite et qui a la capacité financière d'acheter puisse le faire. L'autre élément, eh bien, c'est de rallonger la durée du crédit. Eh oui.
Parce que là, le problème, c'est que le taux d'usure actuel, il a été calculé il y a 3 mois. Mmh. Et donc, comme les taux remontent assez rapidement, forcément, avec des taux d'usure d'il y a 3 mois, eh ben, ça fait l'effet ciseau.
Cet effet ciseau, c'est deux choses. Taux d'usure, plus 35%
de taux d'endettement. Il y avait eu une décision donc des dérogations suite effectivement à l'évolution des taux d'intérêt qui avait avec une grosse pression des courtiers pour qu'on revienne à un taux d'usure mensuel voire même bimestriel. Est-ce que il faudrait selon vous, je m'adresse aux banquiers, qu'il faudrait revoir profondément le texte et finalement adapter un taux d'usure vraiment tous les 15 jours ou tous les mois?
Alors
de manière définitive.
Il faut comprendre quand même que les banques faut pouvoir suivre. Parce que vous avez le temps d'instruction du dossier, si vous voulez. Hein, donc, il faut quand même que ça soit stable. Mmh. Donc, un taux d'usure, lorsqu'on a une volatilité comme aujourd'hui avec...
Oui. Tous les mois, ça a du sens.
Ça a du sens, tous les mois. Surtout lorsqu'on a, aujourd'hui, une problématique géopolitique, avec malheureusement des guerres, des incertitudes. Vous avez le gaz, vous avez le fuel. Donc, les énergies aussi sont totalement volatiles. Donc, il faut, en fait, qu'on puisse caler ce taux sur, justement, la situation économique.
Et peut-être juste à expliquer pourquoi les taux augmentent alors que c'est au
C'est le refinancement.
Orient.
C'est le refinancement. En fait, il faut bien comprendre qu'une banque,
elle se refinance.
Si vous voulez, elle a besoin de deux choses. La première, c'est de la collecte de l'épargne. Mmh. Et c'est parce qu'il y a de l'épargne, eh bien, qu'elle va pouvoir en fait proposer des emprunts. Et donc, elle achète son argent. Elle achète l'argent à un taux, un peu comme la bourse. Voilà. Et ce taux, en fait, forcément, aujourd'hui, il est en train d'augmenter. Donc, la marge est plus faible. Faut pas croire que les banques s'en mettent plein.
Je voudrais poser la question à Anne. Est-ce que vous observez des refus de dossier en ce moment?
Alors, on commence à le voir. Et c'est vrai que les taux avaient quand même un petit peu rebaissé. Donc, ça nous aidait quand même globalement dans nos processus. Et de toute façon, dès que les taux remontent un petit peu,
c'est mécanique,
on le voit. Exactement. On le voit. Il y a moins de demandes. Et les prix baissent.
Merci beaucoup Anne Boucaud-Bassereau. Je rappelle qu'on peut vous retrouver très facilement Anne Boucaud-Bassereau sur internet. Vous êtes installée au Plessis Robinson. Un petit clin d'œil à monsieur et aux enfants aussi, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à Laurent Permas avec Sofinco, vous nous accueillez dans un endroit magnifique, on est en direct de la foire de Paris. Merci à Bérénice de Villeflorio et Grégoire Darico. Le programme de demain les amis, le dimanche sur la foire au stand de Sofinco, dès 11h, vous aurez le choc des idées innovantes avec notre ami Jean-Marie Bordry. Dès 12h jusqu'à 12h30, vous avez votre émission, Laurent, avec La Vie Devant Nous, sur le vieillissement, extrêmement intéressante. Et dès 12h30 jusqu'à 13h, vous avez La Planète de Demain par Christophe Debien, l'excellent Christophe Debien. Prenez soin de vous, passez une très très belle semaine, un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Parlons Immo sur Sud Radio, bien sûr.